Bonsoir, bonsoir à vous toutes et à vous tous qui êtes présents ce soir au Centre Sèvres pour ce mardi d'éthique publique. Bonsoir également à ceux qui nous suivent dans différentes villes en région. Bonsoir aux auditeurs de RCF qui nous suivent, eux, par la voie des ondes. Ce mardi d'éthique publique est donc consacré au thème « Réfugiés et migrants en France et en Italie, quel accueil ?». Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, depuis le début de 2017, plus de 27 000 personnes auraient péri ou disparu en mer en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes. Ce nombre est rarement cité dans les polémiques qui agitent les opinions européennes au sujet de celles et ceux qui fuient leur pays pour des raisons politiques ou économiques afin de trouver refuge de ce côté-ci de la Méditerranée. En ce début novembre 2019, le gouvernement français va prendre de nouvelles mesures restreignant l'accueil des migrants économiques et réorganisant le processus de demande d'asile politique et notamment l'accès aux soins. Derrière le slogan officiel « Accueillir moins pour accueillir mieux », il s'agit en fait d'une validation des fantasmes largement répandus sur de prétendus abus par ces populations migrantes de l'accès aux couvertures sociales et médicales. En Italie, la question des réfugiés serait à l'origine des succès électoraux de la Ligue, un mouvement d'extrême droite dirigé par Matteo Salvini. Alors qu'il était ministre de l'Intérieur entre juin 2018 et août 2019, Matteo Salvini s'était en particulier distingué par son refus d'accueillir dans les ports italiens les navires d'organisations humanitaires qui secouraient des naufragés en Méditerranée. L'argument d'abord mis en avant par Matteo Salvini était le manque de solidarité des autres pays européens, et en particulier la France, d'où de fortes tensions diplomatiques qui ont surgi dans les relations franco-italiennes. Quant à l'Europe, les divers plans de répartition des populations migrantes qu'elle a adoptés n'ont jamais été respectés. Surgissent alors une multitude de questions politiques, mais aussi éthiques. Qu'en est-il notamment de la corrélation migration-montée des populismes d'extrême droite, souvent présentée comme une évidence ? Un sondage publié le mois dernier en Italie par le quotidien La Repubblica plaçait ce sujet en quatrième position dans les préoccupations des Italiens, loin derrière surtout les questions économiques. Il est des évidences qu'il convient parfois de discuter. Pour nous éclairer ce soir sur ces questions, dans une perspective franco-italienne, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marie Carrière, membre du CERAS, que beaucoup connaissent ici, le Centre de Recherche et d'Action Sociale, et Alberto Toscano, journaliste, politologue et écrivain italien, résident en France depuis 1986. Alberto vient de publier « Ti amo Francia »,« Je t'aime la France », de Léonard de Vinci à Pierre Cardin, « Ces Italiens qui ont fait la France », chez Armand Collin. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de citer un autre de ses livres. Alberto a consacré un essai formidable à Gino Bartali, le coureur cycliste qui a gagné deux Tours de France à 10 ans d'intervalle, en 38 et en 48. Et ce livre est consacré à l'action de Gino Bartali avec sa bicyclette pendant la guerre pour sauver des centaines de Juifs. Voilà. Et c'est un hommage rendu à un grand coureur qui a été aussi un héros dans son pays. De l'altruisme. Alors, Jean-Marie Carrière, vous avez la parole.
Je vous remercie. J'habite à Saint-Denis, pas très loin de la porte de la chapelle, où les tentes des exilés se multiplient. Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis, ne représente que 2% de la population française. Elle concentre cependant 9% des étrangers en France et le pourcentage des étrangers en Seine-Saint-Denis est de 23%, loin des 50% affirmés par le député Rassemblement National Nicolas Bay. Aucune ville du 93 ne dépasse 40%. Alors, si vous voulez, je vais procéder de la manière suivante. Je vais poser 5 questions auxquelles j'essaierai de répondre ou de développer. Et justement, précisément, première question, les chiffres disent-ils la vérité sur l'immigration ? Stephen Smith, dans un récent livre, affirmait que la jeune Afrique va se ruer sur le vieux continent, que c'est inscrit dans l'ordre des choses, et qu'à ce rythme, un quart des habitants de l'Europe seront africains en 2050. Monsieur Errant, titulaire de la chaire Immigration au Collège de France, indique que ces annonces fracassantes méconnaissent trois données. Comparée aux autres régions, l'Afrique subsaharienne émigre peu, en raison même de sa pauvreté. Deuxièmement, lorsqu'elle émigre, c'est à 70% dans un autre pays saharien et seulement à 15% en Europe. Et si on suit les indications démographiques de l'ONU, les migrants sahariens auront certainement une certaine place dans l'Europe de demain, mais tout au plus 3 à 4%, ce qui est quand même très loin des 25% avancés par M. Smith. Les chiffres de M. Smith nourrissent l'inquiétude devant l'émergence du continent africain. Dans une note préparatoire au débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale, il est indiqué que les 204 euros versés aux demandeurs d'asile est largement supérieur à la même aide en Angleterre, en Allemagne et en Suède. Mais en Allemagne, l'aide de 135 euros est accompagnée de la gratuité de la nourriture, ce qui n'est pas le cas en France. Donc les chiffres ne sont pas faux, mais ils veulent montrer que la France est bien meilleure que les autres pays. Il y a certainement des raisons pour lesquelles les chiffres de l'immigration peuvent varier fortement d'un auteur à un autre. Nous n'avons pas en France le moyen de dénombrer les étrangers en situation irrégulière. Je dis irrégulière, pas les clandestins, parce que je n'aime pas ce mot qui est dévalorisant, qui sont arrivés par voie terrestre ou par voie aérienne. Ou un autre exemple, vous avez cité tout à l'heure un chiffre, les morts en Méditerranée, il n'existe en fait que très peu de statistiques de ces décès, et l'Organisation internationale des migrations vient juste de commencer à les dénombrer. Comment est-ce que de fait on compte les gens? On ne compte pas les personnes en déplacement comme on peut dénombrer les millions de touristes qui franchissent le tourniquet du Louvre. En fait, avancer des chiffres, c'est présenter un aspect de la réalité, ce que nous cherchons à voir et à comprendre, selon la question qui nous préoccupe et souvent selon nos préjugés sur l'immigration. Avec des chiffres peu vérifiés ou sélectionnés, on peut construire des théories qui ne servent qu'à alimenter nos peurs ou à défendre des positions idéologiques, comme par exemple celle de l'invasion ou du grand remplacement ou de l'appel d'air. Donc je vais prendre de la distance avec les chiffres, et ça aura un avantage, ça permettra de laisser apparaître des questions qui ont un plus grand poids. Deuxième question, la France est-elle capable d'accueillir ? La capacité et la qualité de l'accueil des étrangers ne se mesurent pas au nombre de ceux et celles qui sont admis sur le territoire. La réalité la plus frappante, la plus visible, surtout pour les grandes villes, c'est celle des camps. Dans le triangle Porte de la Chapelle, Porte de la Villette, Stalingrad à Paris, ou bien à Calais, ou bien encore dans un squat à Toulouse. Certes, nous manquons de place dans les structures d'accueil, et cela contraint les exilés à dormir dans la rue, ce qui se voit et ne se voit pas à la fois, mais ceux-ci peuvent avoir aussi d'autres raisons de s'accrocher à la ville, comme les opportunités de travail au noir ou la présence de diaspora. Il reste que la forme du camp, qui est encore présente chez nous, constitue une forme inacceptable de l'accueil. Je vous renvoie aux ouvrages de Michel Agier. Manque de place, réalité des camps, nous sommes là au niveau de la politique de l'État, dont la stratégie n'est pas guidée par l'exigence de respect, mais par la hantise de vouloir maîtriser les mouvements migratoires et les entrées sur le territoire. Et cette stratégie, cette politique d'ensemble, se traduit très concrètement au niveau du quotidien des étrangers et des exilés. Je fais référence à ce qui se passe au niveau des préfectures. L'inaccessibilité des guichets est constatée de toutes parts et la dématérialisation par l'informatique ne fait qu'empirer les choses. De plus en plus d'étrangers désemparés font part de leurs efforts vains pour accéder à un renouvellement de titre de séjour ou à une procédure d'asile. Et même s'ils y accèdent, après de trop longues attentes, il est courant qu'ils soient confrontés à nombre d'obstacles administratifs et, hélas, de temps en temps, même peut-être souvent, à des attitudes de soupçon plus qu'à des attitudes d'accueil. Je pense qu'il convient de regarder cette réalité en face, mais pour autant, ne pas oublier aussi la France qui accueille, selon le titre du livre de Corti et Chivot. Face à l'inquiétude et au sentiment de rejet trop souvent manifesté, il y a une autre France, ouverte et hospitalière, qui ne se laisse pas conduire par ses peurs, qui veut la cohésion sociale et qui veut la rénovation du pacte républicain. Nous connaissons bien des exemples, les familles d'accueil dans le réseau Welcome, les relais d'intégration par les étudiants et les enseignants. Je livre un petit témoignage entendu lors d'une soirée poésie à JRS France. Je cite « Quand je lis un poème devant mes amis et un public, cela me donne confiance. Je peux décrire mes sentiments comme je le souhaite, sans restriction. C'est comme briser la honte. Briser la honte. Et puis, c'est aussi un moyen d'apprendre un niveau de langue plus soutenu et de comprendre une nouvelle culture. » Avec cette citation, nous passons en fait du côté de la question de l'intégration. Troisième question, la France peut-elle être une société intégrée ? L'intégration des étrangers en France constitue un enjeu de cohésion nationale. Le constat des acteurs de terrain estime que l'insertion linguistique, économique ou sociale des personnes est insuffisante. Je vous rappelle que nous avons eu l'année dernière, en février 2018, le rapport du député Aurélien Taché qui donnait des clés tout à fait pertinentes et notamment nous proposait de cesser de gloser incessamment sur le vivre ensemble et de nous donner plutôt les moyens de faire ensemble. Ou alors de penser l'intégration selon une logique d'investissement, un processus d'autonomisation des personnes dans le respect des règles collectives. Et le député Taché a fait 72 propositions qui sont relativement intéressantes et qui se mettent peu à peu en place, grâce notamment à la DIER, à la Direction interministérielle pour l'asile et l'intégration. Il y a un autre rapport, celui de Mathieu Tardis, de l'Institut français des relations internationales de juillet dernier, qui montre comment les choses se passent sur le terrain, et précisément les chances et les défis de l'intégration dans les villes petites et moyennes. Concrètement, ces villes et villages apparaissent comme des espaces de solidarité et d'opportunités pour les réfugiés. Ils n'y sont pas de nouveaux arrivants anonymes, mais deviennent rapidement membres actifs de la communauté locale. Même si nombre d'entre eux expriment le souhait de repartir vers une grande ville dans les premiers mois de leur séjour, en fait, seule une minorité repartira effectivement, un tel souhait perdant de sa force une fois expérimenté les avantages réels de l'environnement local. Les habitants font preuve de beaucoup d'innovation pour répondre aux besoins d'une manière plutôt informelle mais très souvent efficace. Autrement dit, en France, villes et villages offrent une image positive de l'accueil et de l'intégration des étrangers. Il y a bien sûr des difficultés à vaincre. Mais ici, je fais une remarque importante. Les difficultés à l'intégration dans les zones rurales sont des difficultés qui sont aussi éprouvées au quotidien par les populations locales. Problèmes de mobilité, accès aux soins et aux services, accès au logement ou à l'emploi, ce sont des points qui concernent tout le monde. Il convient alors de ne pas percevoir ces problèmes comme seulement liés à l'immigration. En fait, ils constituent un commun, et s'y affronter ensemble habitants et étrangers, ça permet de construire un paradigme différent du « nous » et « eux ». En ces lieux, répondre aux besoins des réfugiés est bénéfique à l'ensemble de la société. Si nous voulons construire un « nous » ensemble, nous ne pouvons pas raisonner en termes de « eux » et « nous », de cette dissymétrie que tentent d'adurcir les différences et les catégories. Il est plus utile d'avancer par des petits pas depuis le bas d'affronter ensemble les questions de la vie parce qu'elles sont les nôtres et qu'elles sont aussi les leurs. Il importe de le reconnaître, d'en prendre conscience et de jouer à partir de là. C'est ainsi que se construit une société intégrée. Quatrième question est la présence des musulmans en France et en Europe. Les exilés et les déplacés arrivés en France et en Europe sont pour une part musulmans, mais pas tous, bien évidemment. En fait, la présence des musulmans est surtout redevable aux immigrés, c'est-à-dire les personnes nées à l'étranger et résidant en France, dont un certain nombre, de ce fait, possèdent la nationalité française. Depuis les années 80, la religiosité musulmane, auparavant réputée limitée aux sphères de vie des immigrés, s'est affirmée en Europe dans l'ensemble de la vie sociale. Les musulmans revendiquent le droit de vivre leur religion, de suivre les prescriptions islamiques tout en ayant accès aux espaces de vie commune, de travail, d'éducation et de loisirs des sociétés européennes. À l'évidence, la visibilité publique de l'islam avec ses symboles majeurs, les mosquées, le voile ou le halal, pose toujours problème aux yeux des citoyens attachés aux valeurs séculières et occidentales de l'Europe. L'islam devient une affaire publique débattue par tous, un sujet mobilisant les acteurs et provoquant passions comme les collectives, comme on le voit encore en ce moment. Alors évidemment, on reproche aux musulmans d'être en décalage avec les valeurs séculières, de faire apparaître dans la vie publique européenne des références externes aux frontières nationales. On se dit, mais leur trajectoire, c'est leur pays d'origine, c'est les chaînes satellites qu'ils écoutent dans leur foyer, c'est la langue maternelle passée à parler à la maison. Leur irruption dans la sphère publique est d'emblée perçue comme un acte de transgression des frontières nationales, et puis par ailleurs, soupçon perpétuel quant à leurs multiples appartenances et à leur loyauté face au pays d'accueil. Nous avons pris l'habitude d'opposer la religion au domaine du politique. Or, l'expression de la foi, comme à propos de la prière, est une forme quotidienne d'agir public, d'apparition sur la scène publique. L'islam surgit souvent comme une altérité inacceptable dans le contexte culturel de l'Europe, dans la mesure où il perturbe les formes habituelles et convenues de la vie commune. Il est assez évident, ou assez clair, du moins pour moi, qu'une conception de la sphère publique figée sur un seul modèle, celui monoculturel de la communauté nationale, fait difficulté. La visibilité publique de l'islam, qui se présente sous forme d'une infraction des frontières tracées entre les étrangers et nous, est source de discorde pour ce qui est des normes partagées et met à l'épreuve les sociétés européennes sur le sens de ce qui est commun. Je pense pour ma part que nous pouvons traverser cette épreuve et cette évolution. Je pense que ce n'est pas perdu d'avance. Car nous pouvons user de deux choses qui nous sont fort utiles, notre capacité d'intégration héritée de notre histoire. Notre histoire a été une longue expérience d'intégration de populations différentes, et puis aussi de l'outil qu'est notre conception de la laïcité. Une laïcité qui ne se conçoit pas comme une militance soupçonneuse et trop souvent irritée, ou l'illusion de régler les choses par une nouvelle loi, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau d'un établissement scolaire. Mais plutôt une laïcité qui est éprouvée comme une capacité de dialogue et de confrontation, sans avoir toujours à recourir à une énonciation législative. Cinquième question, la France peut-elle avoir une politique migratoire toute seule? Évidemment non. Je suis heureux de pouvoir tout à l'heure entendre une voix d'Italie, parce que j'aime ce pays et sa langue. J'ai beaucoup d'admiration pour l'Italie depuis... Ah ben, prego, signor. J'ai beaucoup d'admiration pour l'Italie depuis les années de Mare Nostrum, et puis pour ses options d'accueil, comme on a pu le voir à Riace, la ville de Riace, qui a tellement suscité l'ire de M. Salvini. Et puis, je suis aussi confus pour ce pays, précisément parce qu'on l'a laissé sans solidarité ni collaboration pendant les drames de la Méditerranée. La France, avec quelques autres pays, a pris l'initiative d'élaborer un système coordonné de débarquement des migrants recueillis par les opérations de search and rescue en Méditerranée. Les négociations durent depuis plus d'un an et viennent de quasiment aboutir. Malheureusement, la résolution présentée sur cette coordination il y a quelques jours au Parlement européen a été rejetée à la très courte majorité de 2 voix. On peut penser que cette coordination des accueils, qui en fait a déjà fonctionné, pourra se mettre en place. Je pense que cette action présente 2 avantages. D'une part, d'obéir au principe fondamental de sauver des vies en danger et d'en assumer les conséquences. Et d'autre part, de mettre en évidence qu'une coordination régionale est absolument nécessaire pour la gouvernance des mouvements migratoires et que si on veut y arriver, il ne faut pas attendre que tout le monde soit d'accord. Dans son discours introductif au débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale, le 7 octobre, le Premier ministre évoque les relations de la France avec les pays d'où viennent les mouvements migratoires. Je cite « Nous avons structuré le dialogue avec les pays d'origine et de transit en vue de mieux prévenir et maîtriser les flux migratoires. Nous y mettons les moyens nécessaires avec un effort considérable en matière d'aide publique. Depuis 2 ans, nous mettons enfin la question migratoire au cœur de nos relations diplomatiques avec ces États. » Fin de citation. Cette politique, conduite depuis plusieurs années et qui n'est pas propre à la France, est fortement critiquée par les organisations qui y voient un processus d'externalisation de nos responsabilités en matière d'asile et d'accueil de migrants. Je suis prêt à le concéder, surtout quand j'entends dans la bouche d'Édouard Philippe les termes « mieux prévenir et maîtriser les flux migratoires ». Mais je pense que nous devons faire droit à un autre point de vue. Le fait que des négociations et des accords sont recherchés en direction d'une gouvernance plus globale des migrations et que ceci pourrait peut-être être prometteur pour l'avenir, notamment en suivant les propositions des « Global Compacts » qui ont été signés à Marrakech il y a 1 an. Tout en restant prudent sur le lien concret entre développement et migration, c'est une question qui est très difficile, il me paraît indispensable de progresser vers des articulations justes et pertinentes entre les États concernés par les mouvements migratoires. À titre d'exemple, je défends depuis 5 ans déjà la mise en place d'un accès légal et sûr à l'Europe, un point qui a été avancé en 2014 par un groupe d'organisations chrétiennes à Bruxelles avec le JRS Europe. Il n'est pas possible pour la France d'avoir une politique migratoire réaliste et respectueuse de nos engagements et de nos valeurs sans agir au premier niveau qui nous concerne, l'Europe. Il ne me semble pas que nous ayons pris des initiatives suffisantes à ce niveau. Les processus de décision sont certes très complexes pour l'Europe et je crois que les histoires longues des États membres ont à être respectées. Mais il est clair que 2 points mériterait un effort important, fût-ce même en commençant à quelques-uns, un réexamen en profondeur du règlement Dublin, voire son abandon, parce que c'est un principe qui implique une notion de solidarité qui n'est pas possible en Europe actuellement. Et du coup, de là précisément, un effort conséquent pour une harmonisation des procédures d'asile. Là, nous avons la chance d'avoir European Asylum Support Office, l'Office européen de support de l'asile, qui travaille maintenant avec des moyens renforcés, eh bien, il est assez évident quand même que la Grèce en a dramatiquement besoin. Alors, quelques mots pour finir, si vous permettez. On entend trop souvent dire que les messages du pape François sur les migrants sont idéalistes et peu réalistes. Au CERAS, nous avons une bonne connaissance de la doctrine sociale catholique et nous savons que les propos du pape François sont inscrits dans la tradition de ses prédécesseurs et qu'ils sont très articulés aux engagements des chrétiens en faveur des migrants. Et les deux derniers messages sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont très différents l'un de l'autre. Celui de 2018 était une véritable advocacy, c'est-à-dire un plaidoyer en faveur des migrants au niveau mondial, et c'était très bien en rapport avec la négociation qui avait lieu à l'ONU. Et puis celui de cette année est un message beaucoup plus interpellant, voilà, pour soutenir nos engagements avec le titre « Il ne s'agit pas seulement de migrants ». Eh bien justement, notre expérience à JRS nous a offert la richesse et la joie des rencontres avec des exilés qui ne sont pas que des migrants, sont aussi des hommes et des femmes. Ceux et celles qui ont osé cette rencontre en ont été transformés humainement et j'ose le dire aussi politiquement. Enfin, en ayant eu la chance de croiser 25 années d'enseignement de la Bible dans cette maison et le service à JRS, je suis tout à fait d'accord avec le père Benoît de Cinéti, vicaire général du diocèse de Paris, quand il fait remarquer que l'exil est l'ADN de la Bible. Avec la Bible, nous savons que le déplacement de la migration ouvre à une humanité spécifique, originale, ce qui fait dire à la lettre aux Hébreux, « Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. »
Grand merci à Jean-Marie Carrière de son intervention. Je rappelle, il l'a fait juste à la fin, je pensais le préciser qu'il est bibliste de formation, et c'est pas par hasard, tu l'as bien dit, c'est pas par hasard, et qu'il a été aussi longtemps qu'il est investi dans JRS, le service jésuite des réfugiés, et qu'il est à l'origine, si je ne me trompe pas, du réseau Welcome en France. Donc c'est une connaissance quand même de longue date de ces questions-là. Voilà, donc dans le cadre de cette soirée sur les migrations transnationales et sur les liens en particulier entre la France et l'Italie, la différence de politique, de manière de faire entre la France et l'Italie, je cède la parole maintenant à Monsieur Alberto Toscano, dont je rappelle qu'il est journaliste, écrivain, italien, commencez par ça, mais habitant en France depuis plusieurs décennies, connaissant bien donc les deux situations. Merci.
Merci, merci à vous. Italien, vous la comprenez de mon accent, sans doute. Moi aussi, je trouve que ce que vous avez dit est extrêmement intéressant et donc je continue sur la base de ce que vous avez dit. Quand même, moi aussi, je voudrais partir de quelques chiffres. Et les chiffres, pour commencer, des morts dans la Méditerranée. Et c'est le dernier chiffre qui vient d'être publié par Amnesty International. Alors, le total entre 2014 et aujourd'hui, des morts dans la Méditerranée est de 14 768. Et cette année, il y a eu dans la Méditerranée centrale, dans la partie qui regarde l'Italie, 343 morts. Mais la chose inquiétante, la plus inquiétante, est le changement du rapport entre le nombre de ceux qui partent et le nombre de morts. En 2018, il y avait un mort sur chaque 29 partants, cette année, on a enregistré un mort tous les 6 partants. Donc, le nombre de départs a baissé, le nombre de morts a augmenté. Et je viens aux chiffres pour ceux qui regardent en particulier l'Italie. Dans le sens que cette baisse des départs et des débarquements en Italie est tout à fait impressionnante pendant les dernières années. En 2016, il y a eu 180 000 arrivées en Italie par la Méditerranée, des migrants partis surtout de Libye, mais aussi de Tunisie. En 2017, il y a eu 107 000, donc déjà une baisse considérable. En 2018, on est à 21 300 et cette année, à aujourd'hui, on est presque à 10 000. Alors, voyons d'où il vient ces migrants. Et parce que l'origine, là, est très significative aussi pour les considérations qu'on peut faire ensuite. Chose qu'on ne connaît pas beaucoup, sur les alors ce calcul est fait sur 8000 arrivés en Italie qui ont été recensés par les autorités compétentes cette année. Il y en a d'autres qui sont en cours de analyse. Les Tunisiens sont nettement les premiers avec 2232 sur pratiquement 8000. À la seconde place, il y a les Pakistanais, presque 1000, et ensuite ceux qui sont originaires de Côte d'Ivoire, presque 900, ensuite l'Algérie, l'Irak, le Soudan, le Bangladesh, l'Iran et le Maroc, dont l'origine a beaucoup changé par rapport à il y a 2-3 ans, quand les Érythréens étaient parmi les plus nombreux. Aujourd'hui, le débarquement en Italie ont beaucoup changé entre 2018 et 2019. Suite à la politique du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini de la Ligue du Nord, comme vous savez, il y a eu une baisse du nombre de ceux qui arrivent à travers des bateaux, des organisations à bord de bateaux, des organisations humanitaires, et une augmentation énorme de ceux qui arrivent, énorme en proportion évidemment, parce que on a dit que le nombre a baissé, mais en proportion entre ceux qui arrivent sur des bateaux d'organisations humanitaires sauvés dans les eaux au large de la Libye. Et ceux qui arrivent à bord de tout petits bateaux, de micro-bateaux, au départ souvent de la Tunisie, a changé. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui débarquent en Italie arrivent à bord de tout petits bateaux. Chose qui d'ailleurs relativise beaucoup les discours anti-ONG de Salvini, dans le sens que l'État italien peut empêcher un grand bateau d'une organisation humanitaire d'arriver à Lampedusa ou à un autre port italien, mais il ne peut pas intercepter tous les petits bateaux avec 5-10 personnes à bord. Alors, le fait que beaucoup de voyages se déroulent désormais sur ces petits bateaux est un facteur supplémentaire de danger et d'insécurité pour ces migrants. Alors, le problème, du point de vue italien, une fois vu, moi aussi, j'ai voulu imiter ce qui a été dit tout à l'heure et commencer moi aussi par des chiffres. Une fois pris en compte ces chiffres, je crois qu'il faut se mettre, comment dirais-je, dans la peau des Italiens. Alors la chose est très difficile, d'ailleurs, les sondages au sujet des migrants, de la possibilité d'intégration, révèlent en réalité, ils sont plusieurs, parfois ils se contredisent entre eux. La Repubblica qui vient de publier un sondage qui a été cité et qui est plutôt encourageant pour ceux qui souhaitent une intégration, a l'année dernière publié un sondage plus inquiétant. Ces sondages dépendent beaucoup du moment où ils sont faits et aussi des véritables questions qui sont posées. Mais la chose qui ne ment pas est, permettez de dire malheureusement, le résultat des urnes. Les élections sont quelque part un sondage grandeur nature. Et si nous regardons les progrès impressionnants de la Ligue, qui a tout misé sur la lutte à l'immigration et même le mépris, véritable mépris pour les migrants, parce que quand un ministre de l'Intérieur comme Salvini dit ils sont en train de faire leur croisière dans la Méditerranée, on dépasse toute limite de bon sens. Alors ce parti, la Ligue, a eu 6,2 aux élections européennes de 2014, 17,4 aux élections législatives de 2018 et 34,33 aux élections européennes de cette année. À la base de ce succès électoral de la Ligue et de l'autre parti d'extrême droite, qui est Fratelli d'Italia, qui est crédité aujourd'hui par le sondage autour de 8%, il y a sans doute, des considérations liées à l'immigration. Je crois qu'il ne faut pas cacher la tête sous le sable, il faut se dire une situation, même quand elle est, à notre avis, désagréable à entendre. Mais c'est là qu'il faut faire préciser certaines choses. Du point de vue de l'opinion publique italienne, la nervosité et l'irritation vis-à-vis de la question immigration présentent deux aspects. En réalité, l'aspect apparemment fondamental, c'est-à-dire l'arrivée des migrants comme phénomène en soi, est secondaire par rapport à sa conséquence psychologique. Et je m'explique. Cette année, on a eu en Italie moins de 10 000 arrivées, en 18e par rapport à 2016. Un pays de 60 millions d'habitants peut évidemment accepter, accueillir et intégrer 10 000 personnes par an. Dire le contraire est tout simplement ridicule. Mais ce qui énerve les Italiens et ce qui permet à Salvini d'obtenir des résultats politiques et électoraux sur la base de ses discours d'une extrême brutalité contre l'immigration n'est pas le phénomène de l'immigration en soi qui a baissé, mais la frustration des Italiens, comme d'ailleurs ça a été très bien dit dans l'intervention précédente, la frustration des Italiens vis-à-vis d'une attitude qui est jugée et qui, à mon avis, est effectivement hypocrite de la part de l'Europe dans son ensemble et de certains pays européens en particulier. Parce que, de deux choses l'une, si nous disons que les migrants, si nous, Européens, comme c'est la base de la doctrine européenne actuelle, les réfugiés, qui aujourd'hui sont le 20% de ceux qui arrivent par la mer méditerranéenne en Italie, ont vocation à être accueillis, tandis que les migrants économiques doivent être amenés dans leur pays d'origine. Et si nous disons ensuite que seulement les réfugiés seront, comme ça a été le cas de l'accord d'il y a quelques années avec la Commission européenne et certains pays européens, accord qui d'ailleurs n'a pas été respecté par certains pays, France comprise. Mais si nous disons que seulement les réfugiés peuvent être divisés entre pays européens, tandis que le pays de premier accueil doit ramener ceux qui n'ont pas vocation à être acceptés, c'est-à-dire les migrants économiques, dans leur pays d'origine, nous disons une chose absurde qui met les pays de premier accueil dans une situation extrêmement difficile à gérer. Parce que, encore une fois, j'essaie d'être au prix d'être dur dans ce que je dis, mais quelqu'un arrive dans le bateau qui arrivait hier, des dizaines de personnes. On les met dans un centre d'accueil dans l'attente qu'il leur demande d'asile politique soit pris en compte. Une fois dans un centre d'accueil, ces personnes sont libres, parce qu'elles ne sont pas privées de la liberté, non? Elles ne sont pas mises en prison, donc elles sont libres. Elles peuvent donc quitter le centre d'accueil. Et ceux qui savent avoir beaucoup de probabilités, par exemple parce qu'ils sont tunisiens, or la Tunisie n'est pas le cas de figure de l'Érythrée il y a quelques années. En Tunisie, il y a des élections. Dans la logique de la Commission européenne, un Tunisien n'a pas vocation à être hébergé et accepté parce qu'il est un migrant économique. Donc, toutes ces personnes, où le centre d'accueil est une prison, alors ils sont privés de la liberté, où le centre d'accueil bénéficie évidemment de toutes les libertés, et alors ils quittent le centre d'accueil et ils deviennent des irréguliers, moi aussi, moi non plus, je ne veux pas utiliser le mot clandestin, deviennent des irréguliers, ils iront vers la frontière française, ils feront tout pour arriver en France, et la conséquence de cette situation est que la frontière franco-italienne est devenue un mur. Moi, je voyage, j'habite à Paris depuis 33 ans, et ça fait 33 ans que je fais aller-retour avec l'Italie, pratiquement tous les mois. Et depuis quelques mois, la dernière fois, on m'a demandé « Où est-ce que vous allez ?» Je dis « Je vais à Paris. » « Et qu'est-ce que vous allez faire à Paris ?» Non, mais le contrôle à Modane sur le TGV, qui est TGV, mon œil, parce que il est tout sauf qu'à grande vitesse, de Milan à Paris, et les contrôles à la frontière de Modane sont devenus des contrôles. Alors, évidemment, on n'est pas, quand on est de manifeste d'origine européenne, on n'est pas spécialement de la collimateur. Mais compte tenu qu'on doit montrer qu'on fait pas le contrôle aux faciès, alors on s'entend, on entend des questions de cette nature et on s'énerve. Et voilà. Toute cette série de situations relève d'une attitude hypocrite de la part de l'Europe. Parce que l'expérience, moi, je m'occupe un peu de cette problématique depuis un certain temps. Et toute l'expérience montre que tout discours de ramener les migrants dans leur pays ne tient pas debout, même pas 5 minutes. Je suis arrivé ici en 86. Et Charles Pasqua promettait ramener les migrants chez eux. Il a fait, je crois, 2 charter pour le Mali, et il a abandonné ça. En plus, il est impossible. Tout d'abord, c'est cher. Et ensuite, ça a un effet qui pousse ces personnes à devenir des irréguliers, donc à rendre la situation tendue aux frontières italiennes. Et en plus, c'est impraticable. Parce que pour qu'un migrant soit ramené dans son pays, que ce soit l'Algérie, la Tunisie ou le Mali, ou le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, il faut que ces pays les reconnaissent comme leurs citoyens. Souvent, ces migrants détruisent leur passeport. Ça devient compliqué. Et en plus, c'est un acte d'une extrême violence, de charger par la force quelqu'un sur un avion et le ramener dans un autre pays. Donc, et ça n'a été jamais pratiqué. Même Nicolas Sarkozy a promis de faire une politique de ramener les migrants dans leur pays d'origine. Il a dit, j'ai expulsé 30 000 personnes. La moitié, c'était des Roumains et des Bulgares qui ont pris l'argent pour partir. Et dès qu'ils sont arrivés à leur pays, ils sont revenus en France. Ce n'est pas... Donc, tout discours sur la question migratoire doit partir d'une considération évidente. Ceux qui sont en Europe doivent être intégrés en Europe, qu'ils soient réfugiés ou qu'ils soient migrants économiques. L'autre partie de ce discours, par contre, et peut-être que là, on ne sera pas tous d'accord, est que il faut mettre fin au départ de l'autre côté de la Méditerranée vers l'Europe. Ce n'est pas possible. Un système d'accueil est un système légal et un système organisé. Ce système qui est basé sur des départs incontrôlables et dans ces conditions, qui plus est extrêmement dangereuses et de plus en plus dangereuses, aura seulement l'effet de faire en sorte que dans les pays du sud de la Méditerranée, des partis ouvertement anti-migrants se renforcent. On voit Vox en Espagne, la Ligue en Italie, et aujourd'hui la droite grecque est revenue au pouvoir, et ne changera pas vraiment les choses. Il faut une politique européenne par rapport à l'Afrique, et cette politique, à mon sens, doit inclure. Et ça, en disant ça, je crois exprimer une opinion que beaucoup, vraiment beaucoup d'Italiens partagent. Cette situation de confusion dramatique doit finir. Et cette confusion de situation de confusion dramatique a commencé à une date précise avec l'intervention en Libye qui a été voulue par Nicolas Sarkozy et qui a été le vase de Pandore qui a compliqué d'une façon dramatique la question migratoire dans la Méditerranée. Une politique européenne basée sur des principes et sur une volonté d'efficacité et une politique qui accepte des migrants, mais qui les accepte de façon régulière et qui contribue au développement des pays africains. Et qui plus est, quand certaines personnes qui ont une instruction arrivent de façon irrégulière en Europe, ces personnes privent leur pays d'origine de ressources intellectuelles et économiques. On est dans un déséquilibre dangereux et dans une confusion encore plus dangereuse. Encore un aspect qui, à mon avis, est très important. La question des bateaux. Évidemment, Salvini a tous les torts du monde. Ça, c'est d'une évidence telle qu'il n'y a même pas le besoin de faire des exemples. Mais pourquoi? Et je me réjouis que ça ait été dit que Dublin doit être réformé. Parce que Dublin a été considéré comme un alibi par des pays européens, France comprise, pour mettre le gros du problème sur le dos des pays de premier accueil, l'Italie, Malte, mais aussi la Grèce et l'Espagne. Les bateaux des organisations, tout d'abord, les bateaux des organisations humanitaires sont beaucoup mieux que les petits bateaux hyper dangereux. Ça, c'est une évidence. Mais les bateaux des organisations humanitaires doivent pouvoir arriver dans des ports de plusieurs pays européens, pas que dans les ports d'Italie ou de Malte. On dit, mais la France est plus loin, la Croatie est plus loin. Oui, mais quand, et ce n'est pas que Salvini, parce qu'aujourd'hui Salvini n'est pas au pouvoir. Aujourd'hui il y a un gouvernement de centre-gauche en Italie qui d'ailleurs inclut une formation politique de la gauche radicale, comme Liberi e Uguali. Quand un gouvernement italien impose à un bateau d'une organisation humanitaire de rester 4 jours, 10 jours, Salvini est arrivé une trentaine de jours, au large des côtes européennes, sans concéder le droit d'arriver dans le port. Hein? Alors, ces personnes qui sont à bord de ce bateau, de toute façon, passent plusieurs jours. En 4 jours ou 5 jours, ils pouvaient arriver à Marseille, ils pouvaient arriver ailleurs. Pourquoi la France n'accepte pas qu'un seul bateau? Pour l'opinion publique italienne, je disais tout à l'heure, la question psychologique, la frustration vis-à-vis de l'attitude européenne, pour l'opinion publique italienne, est beaucoup plus grave que le problème en soi. Donc il faut désamorcer la mine flottante, de cette conséquence psychologique, d'ailleurs plutôt compréhensible, que les Italiens prouvent aujourd'hui vis-à-vis de l'attitude européenne. Et la meilleure façon est de montrer, et je termine, est de montrer que d'autres pays européens reçoivent au moins un bateau. Et enfin, encore une fois, de deux choses l'une. Où il y a une volonté de dialogue européen devant cette crise, qui inclut une pluralité d'aspects qui vont de la grande politique internationale, de la collaboration, de la gestion de certaines interventions, même actuelles, dans la partie saharienne de l'Afrique, jusqu'à l'accueil concret des migrants et jusqu'à un discours commun vis-à-vis du fait qu'il faut en finir, de toute façon, avec des voyages comme les actuels à travers la Méditerranée. À quelles conditions? Quel rapport avec la Libye de demain? C'est nous qui avons déstabilisé la Libye. Comment est-ce qu'on se positionne devant la politique libyenne? Pourquoi Français et Italiens n'arrivent même pas à se trouver d'accord sur une stratégie vis-à-vis de l'avenir de la politique libyenne? Alors, où on arrive à trouver un esprit de collaboration européenne face à ce type de problème, où malheureusement la situation dramatique continuera aussi parce que les Salvini, mais les Salvini au pluriel, auront plus de chances de prendre le pouvoir dans des pays de l'Europe du Sud surtout.
Merci beaucoup à Alberto Stoscano pour cet exposé nourri et, comme disent les Italiens, spregiudicato, ce qui est à peu près intraduisible en français, disons, sans préjugés. Et nous suivons donc le débat des mardis d'éthique publique du Centre Sèvres consacré ce soir à la question des migrants en France et en Italie. Et après cette présentation de la situation italienne, peut-être Jean-Marie Carrière veut-il réagir sur quelques points soulevés par Alberto Toscano.
J'aimerais poser une ou deux questions, puis j'aurai un troisième point. Ça va? Un diable. J'aime assez bien lire autour de la migration et pas seulement des rapports, parce que c'est pas toujours rigolo. Et il y a quand même un certain nombre d'ouvrages que nos amis italiens ont publiés dans les dernières années, que je trouve assez remarquables. Par exemple, il y a une dame auteure, dont je ne vais pas me rappeler le nom parce que j'ai un peu d'Alzheimer, qui s'appelait Io sono con te, un récit tout à fait remarquable entre une dame qui est écrivain et une Congolaise. Ou encore un autre livre dont je ne me rappelle plus l'auteur non plus, Nel mare ci sono i coccodilli. Oui. Ou encore de Fabio Gatti, un très beau récit sur Bilal, sur la traversée du désert par un journaliste qui avait accompagné. Et puis alors récemment j'ai lu aussi un ouvrage très intéressant, mais là encore le nom va m'échapper, sur les frontières, il me semble. Où l'auteur s'intéresse beaucoup aux Érythréens, parce que quand même entre l'Érythrée et l'Italie, il y a des liens un peu engagés. Alors ma question c'est, est-ce que cette qualité littéraire, ça dit quelque chose aussi de la manière dont l'Italie se situe par rapport aux migrants, par rapport à leur accueil, éventuellement par rapport à leur intégration?
Oui, sans doute. On pourrait rajouter le film Fuoco Amaro qui a gagné l'Ours
d'Or. Ah oui, Fuoco Amaro aussi. Excellent.
Fuoco Amaro.
À Lampedusa.
On partage le même Alzheimer. Moi, je dis Fuoco Amaro, je me suis trompé. Et Fuoco Amaro, vous m'avez justement corrigé. Et on pourrait rajouter ce qui a écrit Saviano. Le maire de Riach lui-même est intervenu dans cette... Oui, c'est le réflexe d'un engagement, c'est le réflexe du fait que l'opinion publique italienne est déchirée devant ce problème. L'opinion publique italienne n'est certainement pas raciste, n'est certainement pas favorable à chasser tous les migrants et tout ça. Mais là, il y a une confusion... Qui est, je fais un exemple. Les migrants arrivent, ils sont dans le centre administratif de rétention. Souvent, ils partent, ils vont dans la nature, et dans la nature, ils deviennent des instruments pour, on les appelle les caporales, Et d'ailleurs, il y a l'un de ses livres sur ça, l'expérience de ces migrants qui sont engagés pour faire la cueillette des tomates, des autres fruits et légumes, notamment dans l'Italie du Sud, notamment en Campanie et dans les Pouilles et en Calabre, mais surtout en Campanie et dans les Pouilles, dans des conditions de véritable esclavage et d'une exploitation incroyable. Alors, l'opinion publique italienne voit ça. Et d'un côté, ça est à l'origine d'un engagement du cinéma, de la littérature italienne, du journalisme italien, pour dénoncer ces situations. Comment est-ce que c'est imaginable qu'une personne immigrée, qui plus est après tout ce qu'elle a passé, arrive dans les Pouilles et elle doit travailler 12 heures par jour, payer peut-être 3 euros par heure de l'heure, et en plus elle doit payer le entre guillemets, logement dans des conditions inimaginables de congestion, de laideur et tout ça. Et en plus, il y a des incidents, parce qu'ils voyagent, ils travaillent 12 heures, et il y a des petits camions où ils sont entassés, et il y a eu plusieurs morts encore récemment.
Mais ce qui est intéressant, c'est comme disent nos amis de GRS Italie, la scrittura non va in esilio. Ça, je trouve cette expression, l'écriture ne part pas en exil, parce qu'à travers ces ouvrages, il y a une sorte de, comment dirais-je, j'allais presque dire de tendresse, enfin je veux dire, une sorte d'estime sur l'expérience migratoire. Mais j'avais une autre question. Parce que, je sais pas, vous proposez que effectivement on essaye d'arrêter les mouvements migratoires. Ça, j'avoue que je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse arrêter les mouvements migratoires. La mobilité devient une qualité essentielle de la globalisation. Ça, c'est tout à fait clair. Et nous les premiers d'ailleurs. Nous les premiers, on bouge comme c'est pas possible. Le père EV était à Rome il y a quelques jours. Bon voilà. Donc
vous avez traversé la Méditerranée petite barque.
Ce que je veux dire, c'est que les mouvements migratoires ne s'arrêtent pas et ne s'arrêteront pas. Voilà. Alors, ce qu'il faut peut-être, c'est ce que j'ai suggéré, ce qui serait peut-être plus intéressant que de vouloir les arrêter, parce qu'on ne les arrêtera pas. Les mouvements migratoires. Parce qu'il y a cette mobilité qui maintenant est une qualité qui est la nôtre et à laquelle on va pas résister. Alors il y a peut-être, j'ai proposé que une manière de faire, c'est d'avoir une gestion ou un management, comme diraient les Anglais, régional, sinon mondial, des mouvements migratoires. C'est ça, ça me paraît. Et puis, j'ai une autre question.
Je répondrai à celle-ci. Quand même.
Oui, puis j'en ai une autre derrière encore.
J'en ai une moi aussi. Mais mobilité, d'accord. Mais, excusez-moi, là, on est en présence d'une catastrophe, pas d'un phénomène de mobilité. Et donc, là, il faut stopper la catastrophe. Nous avons aujourd'hui deux catastrophes. Une, ceux qui sont entassés dans le lager en Libye, et l'autre est ceux qui partent dans ces conditions. Là, il faut en finir. Ça, c'est pas de la mobilité. Et là, il faut en finir. Ensuite, quand la situation géopolitique dans cette partie du monde aura changé, et là, c'est aussi une responsabilité politique de nos pays, qui ont déstabilisé la Libye, qui n'ont pas été capables de faire quelque chose pour cette partie de l'Afrique. Alors, quand la situation sera stabilisée, il y aura toute une autre perspective vis-à-vis de ceux qui voudront profiter à ce point-là de la mobilité. Mais aujourd'hui, on a des milliers de personnes en Libye dans des conditions délirantes de cruauté et on a des traversées de la Méditerranée dans des conditions hyper dangereuses. Ça doit finir.
Yeah. C'est avec cette réponse à la première question de Jean-Marie Carrière que se termine ce débat. Malheureusement, je regrette de devoir frustrer Jean-Marie Carrière de sa deuxième question. Je vous remercie beaucoup l'un et l'autre de vos interventions, encore une fois très, très informées, très stimulantes. Et je remercie vous qui êtes ici pour votre attention à ce mardi d'éthique publique du Centre Sèvres sur la question des migrations en France et en Italie. Merci. Merci. Et vous pouvez poser votre deuxième question.
Merci. Je comprends assez bien que l'opinion italienne, comment dirais-je, ne soit pas très, enfin, apprécie pas très bien que la France n'accepte pas qu'un bateau vienne accoster dans un port français. Ça, je comprends. Il y a quelque chose de symbolique, de très fort et de symbolique. Mais enfin, bon, d'accord. La France, je dis pas que je défends cette décision, hein, mais je dis la France n'accepte pas un bateau. Bon, enfin, quand même, c'est la France qui a pris l'initiative d'essayer d'organiser les débarquements et de les partager. Et la France a pris sa part à chaque débarquement des personnes, parce que c'est ça qui compte. C'est pas tellement qu'un bateau arrive, débarque à tel endroit, enfin si, c'est un problème, je suis d'accord. Mais c'est surtout les personnes. Et la France a pris sa part et s'est démenée pour qu'à chaque débarquement, en Italie ou à Malte, parce que c'était pas seulement en Italie, on prenne notre part des personnes qui étaient concernées, qui avaient été sauvées sur la Méditerranée. Alors, je comprends que le fait qu'un bateau ne vienne pas débarquer en France soit symboliquement pas très agréable aux yeux de l'Italie, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts de ce côté-là, ça je reconnais. Mais enfin bon, je veux dire, je crois que la France prend sa part de ces opérations de sauvetage.
Je peux répondre? Donc, en 2017, si la mémoire ne me fait pas défaut, il y a eu un accord européen pour le partage de migrants ayant droit d'être dans des réfugiés, ayant droit sur la base des critères européens. Et la France a déclaré la volonté d'accueillir un certain nombre de ces migrants et en a accueilli beaucoup mieux. J'ai les chiffres, mais enfin, croyez-moi sur parole, et d'ailleurs, vous le savez très bien que la France n'a pas accueilli tous ceux qui s'étaient engagés à accueillir. Mais le problème n'est pas là. Le problème est quand le président Emmanuel Macron a changé d'attitude sur ce sujet. Il a changé d'attitude au bateau de quand il y a eu le bateau au mois de mai, je crois, de cette année, que Salvini a absolument empêché de débarquer, d'arriver dans un port italien qui allait à Malte, et les Maltais l'ont accepté sur la base d'un accord de redistribution européenne avec l'Allemagne, la France, le Luxembourg, la Belgique et l'Espagne. Et elle a changé aussi d'attitude l'autre bateau qui est arrivé en Espagne, parce que le Premier ministre González l'a accepté, Sanchez l'a accepté, et que Salvini avait refusé, et là aussi il y a une répartition. Donc Emmanuel Macron a accepté la répartition de ceux qui étaient dans le bateau quand Salvini a refusé de les faire arriver en Italie. En faisant comme ça, il a donné raison à Salvini. Parce que les Italiens, qu'est-ce qu'ils disent? C'est Salvini qui a obtenu d'obliger Emmanuel Macron à changer d'attitude. Et ça a rendu Salvini plus populaire. Cette chose qui était évidente, que ceux qui étaient dans le bateau devaient être divisés dans les différents pays, a été obtenue par la violence et par les discours absurdes de Salvini. Et du point de vue italien, de l'opinion publique italienne, ça n'a pas été une bonne chose. Évidemment, la France a changé d'attitude. Elle aurait dû le faire avant.
Nous avons
allons passer aux questions de la salle.
Nous les prenons trois par trois, comme à l'habitude. Vous avez des micros qui vont vous être présentés. Alors, il y a une question tout au fond. Ah, Franck n'a pas de...
Les micros arrivent.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a des questions par ici, déjà ? Brigitte a un micro, mais qui n'a pas l'air de fonctionner.
Un micro qui est fâché. Alors...
Oui, bonjour. J'ai une question sur l'intégration. Vous avez dit que la France avait une longue histoire d'intégration et que donc on était dans notre continuité. Ceci dit, j'ai le sentiment qu'il y a une discontinuité quand même dans le phénomène d'immigration, dans la mesure où, entre les deux guerres, tout le monde a dit qu'il y avait beaucoup de Polonais, d'Italiens. Mais ces gens-là, qui étaient de culture religieuse analogue à la nôtre, en fait, ont épousé des Français, puis après, ça a été parfaitement intégré à la population normale. Le problème, c'est que chez les musulmans, on épouse une musulmane quand on est un homme et on épouse un musulman quand on est une femme. Donc, il n'y a pas ce phénomène. Autrement dit, les musulmans restent entre eux à ce point de vue-là. Il n'y a pas d'intégration de la population véritablement. Et donc, je pense que c'est peut-être une vraie question, ça. Je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Merci. Alors, continuons. Qu'il y a d'autres questions ? Alors, toujours dans le fond, là-bas. Ah, non, devant. Bon, mais ça, nous retenons la question du fond aussi.
Bonjour. Moi, je serais intéressée par le fait de revenir sur la question, notamment en France, des camps. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux, des pistes, une certaine espérance pour ces camps qui sont tellement honteuses et tellement vertigineuses, question à voir, impuissant, voilà. Merci.
Merci. Et il y a une question au milieu. Ah, bon, ça va venir, ce sera la série prochaine.
Oui, je voudrais intervenir sur votre dernière intervention. Je vous remercie beaucoup de ce que vous avez dit tout au long de vos paroles. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est ce que vous avez évoqué, c'est de débarquer par exemple les personnes rescapées à Marseille ou à un autre port français. Je suis marin de formation et je suis le président de SOS Méditerranée. Et là, on touche à la base du sauvetage en mer. Le sauvetage en mer, le droit maritime est très clair. On doit débarquer les personnes rescapées dans le port, dans le lieu sûr le plus proche. Et là, remettre en cause cette notion fondamentale du sauvetage en mer, ce que vous avez évoqué me gêne beaucoup. Enfin.
Merci. Alors, trois questions. L'intégration, les camps, et puis la question des ports de débarquement, qui est peut-être un peu technique, mais effectivement très, très importante. Alors,
il y a la troisième.
Je réponds à la troisième. Monsieur, évidemment, en ligne de principe, vous avez tout à fait raison. Il y a le droit de la mer qui dit les ports les plus proches. Alors, vous conviendrez avec moi que pour un bateau qui part de Libye, le port le plus proche est en Tunisie. Et s'il ne va pas en Tunisie, le port le plus proche est en Malte. Donc, disons, cette considération est à double tranchant. Elle a été utilisée par Salvini pour dire qu'ils font un jeu politique pour créer des problèmes à l'Italie, gérés à l'époque par un gouvernement de droite, et ces organisations humanitaires, Salvini dit méchantes, font un jeu politique, une stratégie politique. Le discours du droit de la mer, s'il est considéré d'une façon stricto sensu, effectivement, se prête à des interprétations différentes, parce que l'Italie n'est souvent pas le premier. Et je crois que sur ce discours, il y a, comme sur toute cette question des migrants, où il y a le bon sens et la bonne volonté, où on va contre un mur. Donc, il faut de la flexibilité. Du point de vue de la perception de la... Vous savez, en 98, un bateau est arrivé en France, pas loin de Marseille. Hein? Et c'était l'époque du gouvernement Jospin. Vous vous souvenez, très bien. 800 personnes à bord. Et Lionel Jospin, d'ailleurs, commençait socialiste, à la tête d'un gouvernement qui comprenait les Verts et les communistes, a dit ils n'ont pas vocation de rester en France. On les accueille. D'ailleurs, je voudrais bien que quelqu'un fasse un travail de reportage, d'enquête sur ce qu'ils sont devenus. Si un seul a été, j'espère que non, mais chassé de France, parce que Jospin avait dit non aux migrants économiques. Donc, oui aux réfugiés, non aux migrants économiques. C'est toujours la même histoire. Et il y a eu en France un scandale pour un bateau. L'Italie, en 2016, a eu, des dizaines, voire des centaines d'arrivées de bateaux, petits et grands. S'il y a la bonne volonté, le bon sens et plein de choses de se comprendre les uns les autres, on comprend que il faut donner aussi des signaux, des exemples. Et sinon, il y a la stricte interprétation du code de la mer, c'est possible, mais c'est pas sûr que ça soit mauvais du point de vue de plus dur, de faucon de l'extrême droite italienne. Et je suis pas sûr que eux ils seraient contraires à ce type de logique. D'ailleurs, Salvini a toujours dit le port le plus proche est le port en Tunisie. Il doit s'arrêter là.
Alors, question de l'intégration.
Question de la discontinuité. Oui. Les mouvements migratoires que nous connaissons, qui sont une partie de notre histoire quand même depuis longtemps. Effectivement, on peut dire qu'il y a eu des discontinuités, notamment le passage du fait que les pays européens ont été pendant très longtemps des pays d'émigration, c'est-à-dire les gens partaient, et ils sont devenus des pays d'immigration. Et ça, je ne suis pas complètement sûr qu'on ait complètement intégré cette chose-là dans notre mentalité, parce que c'est pas du tout la même chose. Et puis un deuxième tournant de discontinuité, je trouve que c'est les années 75-80. Où effectivement on a modifié assez radicalement notre attitude vis-à-vis de l'immigration, notamment l'immigration de travail. Mais ça, si je dis ça, c'est parce que je pense pas que l'arrivée d'immigrants musulmans soit une discontinuité extrêmement importante. Enfin, vous voyez, je me situe un peu, voilà. Bah, je sais pas. On a eu quand même les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Moi, j'ai vécu dans un quartier marocain à Saint-Étienne. Bon, bah, ces gens-là, ils ont construit une mosquée et voilà. Bon. Donc, c'est pour dire que, j'ai essayé de vous dire tout à l'heure que, bon, la question musulmane n'est pas à penser uniquement dans le fait que ils ont une religion différente de la nôtre, d'accord. Mais parce qu'en France, tout le monde n'a pas la religion chrétienne ni catholique, quand même, faut pas, hein, d'accord. Je pense que la vraie question est qu'ils ont une attitude différente par rapport à l'espace public, et que ça nous pose des questions. Ça nous pose, c'est normal, parce que nous, on n'a pas le même type de rapport à la scène publique et à l'espace public. Nous avons bien, très bien intégré, nous les chrétiens en France, que la foi devait se vivre à l'intérieur de notre cœur et dans l'intimité. Mais attendez, oui, peut-être, mais enfin, c'est pas forcé quand même. Je suis pas en train de défendre des processions catholiques à l'extérieur ou des choses comme ça. Mais je veux dire, c'est quand même quelque chose. Ça, c'est une certaine conception de la laïcité. Je suis pas sûr que ce soit la bonne. Voilà, de faire tenir la religion uniquement à l'intérieur. Alors, avec nos amis musulmans, eh bien, on a une position différente. Donc, ce que je pensais qu'il fallait proposer, c'est d'en discuter. C'est-à-dire de prendre le temps d'en parler ensemble et de voir qu'est-ce qu'on souhaite. La laïcité, c'est quoi ? La laïcité, c'est la liberté de religion tout en respectant les règles de la République. Voilà. Alors pour l'instant, les règles de la République, on en crée beaucoup et trop par rapport à ces questions-là, par rapport au voile ou par rapport au je ne sais pas quoi. D'accord. Je pense qu'il faut...
La polygamie,
sans doute. Mais enfin, je veux dire, la polygamie, à mon avis, pour les musulmans en France, elle se réduit beaucoup. Alors, j'aime bien ce que vous disiez sur les intermariages, parce que, ben là, c'est une réminiscence biblique. Hein. Quand ils sont revenus d'exil, Esdras a été extrêmement dur sur la question des intermariages. Et donc c'est vrai que c'est un lieu très... Ceci étant, moi, je pense pas quand même qu'il n'y a pas d'intermariage entre les musulmans et d'autres. Il y en a. Voilà. C'est pas la généralité, mais il y en a quand même. Donc il se passe aussi des choses de ce côté-là.
Et les camps ?
Alors les camps, là, les bras me tombent parce que, comme j'ai dit, j'habite à côté de la porte de la chapelle. Donc il y a beaucoup de tentes. Dans la communauté, nous avons un compagnon qui, tous les mardis soirs, va faire des maraudes avec une association locale. Je sais pas, vous avez raison, c'est une honte. Ça, c'est vrai, et ça nous fait honte à chaque fois qu'on passe. Voilà. Moi, quand je vais au cinéma le samedi soir, je passe à côté des tentes. C'est pas très rigolo. J'ai dit que je pense qu'il y a un problème de manque de place dans les structures d'accueil qui sont gérées par l'État ou par les collectivités territoriales. Ceci étant, je vous ai indiqué aussi, moi je pense que les migrants qui dorment sous les tentes, ils ont aussi des raisons, parce qu'il y a les diasporas qui sont pas loin, parce qu'il y a des liens qui peuvent un peu les aider, même s'ils dorment dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. J'avoue que je ne sais pas très bien où est la solution. Moi, je pense que la solution est quand même qu'une prise de responsabilité entre l'État et les villes. Parce que pour l'instant, à la porte de la chapelle, personne ne sait qui est responsable. L'État, c'est-à-dire la préfecture, ne bouge quasiment pas. Madame Hidalgo, elle a fait des efforts, hein, Madame Hidalgo. Et à la mairie Saint-Denis, on n'a pas toujours les moyens de faire face. Je trouve que c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'attriste beaucoup, mais je ne sais pas quelle est la solution. Je pense pas que si on résorbait les camps, on créerait un appel d'air. Parce qu'encore une fois, je crois qu'il y a des raisons propres aux migrants de vouloir être proches de la ville. Voilà. Et il y a toute une symbolique de leur manière de poser les tentes juste au carrefour des autoroutes et juste comme ça. Là, il y a quelque chose qui est presque pensé, à mon avis. Voilà. Donc, il faudrait arriver à parler avec eux. C'est-à-dire avoir des instances où on peut parler avec eux, leur dire que nous, on peut pas, on n'aime pas ça, qu'on a honte de ça, et qu'on voit pas pourquoi ils insistent à revenir mettre leur tente à cet endroit-là. Plutôt que de prendre des décisions, enfin bon, les évacuations de la police, c'est tous les 3 jours ou les 4 jours à la porte de la chapelle.
Voilà, merci. On va reprendre une autre série de questions. Je signale juste en passant, petit coup de publicité, que dans la revue Études, nous avions un entretien avec François Hérande, qui est professeur au Collège de France, qui donne effectivement, qui permet de démythifier un certain nombre de statistiques tout à fait intéressantes. Et nous avons aussi, puisque allusion a été faite à SOS Méditerranée, nous avons aussi publié un entretien avec Francis Vallat, qui était l'ancien président d'SOS Méditerranée.
Mais alors, on trouve aussi de très bons articles.
Dans la revue Projet.
Dans la revue Projet, merci. Qui a fait 2 numéros merci spéciaux sur cette question.
Voilà, c'est très bien comme
donc
ça.
C'est très complémentaire.
Équilibré. C'est tout à fait complémentaire. Alors, nous reprenons la question. Donc.
Oui, bonsoir, merci, c'était très intéressant. J'aimerais juste revenir sur, enfin, juste une petite remarque sur ce qu'a dit le monsieur. La France a un des records, bon, il n'y a pas de statistiques ethniques, c'est difficile de savoir, mais a un des records de mariages mixtes. On l'oublie souvent, c'est là où en fait l'intégration se fait le mieux, c'est par le lit, si j'ose dire. Ma remarque, c'est par rapport aux questions liées aux grands enjeux européens. Aux grands enjeux européens et à la question du règlement européen. Je vais vous dire je veux pas faire trop long, mais juste une petite réflexion, après je vous poserai une question. J'ai l'impression que croire qu'on va pouvoir réformer le règlement Dublin, qui est le règlement qui fait que quand un réflugié arrive sur le sol européen, un demandeur d'asile arrive sur le sol européen, il doit faire la demande dans le pays où il arrive, c'est pour ça que l'Italie concentre le nombre de demandes.
Et la Grèce.
Et la Grèce. Me paraît un peu illusoire. J'en avais parlé une fois avec le directeur de santé de Gidio d'Italie, qui pensait la même chose. Il disait aussi, oui, c'est un peu illusoire, c'est un peu une mantra de certains milieux militants, mais avec Viktor Orban, le gouvernement polonais dans la salle du Conseil européen allait ouvrir une négociation sur Dublin, on est sûr de finir avec quelque chose de pire à la fin. Et il disait que mieux valait peut-être réfléchir à des solutions alternatives qu'explore la Commission, le répartition des migrants, ou alors, je voulais vous interroger là-dessus d'ailleurs, que pensez-vous des couloirs humanitaires que mène notamment Santé Gidio directement entre les pays en situation de guerre, notamment via le Liban pour la Syrie, de faire rapatrier des réfugiés directement par avion afin de sécuriser les voies.
Merci. Alors ensuite, oui, un peu devant.
Oui, pardon pour cette question, mais est-ce que la France a été un pays d'accueil à une période de l'histoire? Tout à l'heure, on a parlé de ceux qui venaient et qui étaient d'une autre religion. Dire que tous ceux qui viennent ont une religion, on dit même c'est des musulmans. Ils sont pas musulmans. Comme nous, les Français, nous sommes pas forcément catholiques. J'ai envie de parler des rapatriés. Rapatriés. C'était des Français qui étaient aussi considérés comme des chrétiens. Le sujet a été aussi difficile. Et puis on peut remonter, puisqu'il y a notre ami italien ici. Donc tous ces peuples, et Jean-Marie parle de mobilité, il a raison, on n'arrêtera pas cette mobilité. On ne l'arrêtera pas. Donc comment nous convertir, enfin, si je peux me permettre, moi le premier, à justement accueillir.
Merci. Alors une troisième question. Est-ce qu'on avait... Voilà.
C'est plutôt trois réflexions. Dublin. La France peut toujours y déroger. Hein, les accords de Dublin... Chaque pays peut y déroger s'il le veut. Et jusqu'à présent, la France ne l'a jamais accepté. Deuxièmement, les migrants musulmans. On oublie qu'il y a beaucoup de migrants chrétiens, hein, que les gens qui viennent de RDC sont majoritairement chrétiens. Ils ne sont pas mieux traités et mieux reçus que les migrants musulmans, ni mieux intégrés. J'ai même des exemples de migrants chrétiens syriens qui ne sont pas mieux traités non plus, c'est-à-dire qu'ils sont rejetés. Et enfin, au niveau des camps, des tentes, de l'attrait des migrants pour se retrouver ensemble, il est un fait que, et là je parle d'expérience, nous avons reçu chez nous des Guinéens, et au bout de quelques jours, ils sont repartis dans une tente à la chapelle parce que on les recevait le mieux qu'on pouvait, mais on parlait pas la langue, on n'avait pas la cuisine ad hoc, etc. Hein, donc c'est un point important, et la solidarité intra-migrant est beaucoup plus importante qu'on ne l'imagine. Voilà ce que je voulais dire.
Merci pour ces remarques. Alors, peut-être une réflexion d'Alberto Toscano sur les couloirs humanitaires et sur que c'est les Santé Gidio a été mentionné.
La réforme de Dublin, je suis tout à fait d'accord avec l'inquiétude qui a été exprimée au sujet qu'elle puisse être amenée dans une situation d'impasse. À cause justement des Hongrois et d'autres pays. Je crois que, encore une fois, il faut sortir d'une logique purement juridique. Dublin peut être changé dans la pratique. Comme monsieur parlait d'exception, les États peuvent faire comprendre que la Grèce et l'Italie, en particulier, et Malte, ne peuvent pas être chargés de la gestion des demandes d'asile pour tout le monde. Que ça, c'est une machine à créer des irréguliers. Les irréguliers vont sur les frontières, la France change la situation à les frontières, ça va rendre plus tendue la relation franco-italienne. S'il n'y a pas du bon sens et de la bonne volonté, on s'en sort pas. La question du Dublin, à mon sens, doit être dépassée dans la pratique avant que dans une... Si on fait une conférence intergouvernementale, ciao. Ciao. L'autre question qui est sur les couloirs humanitaires, évidemment, il faut arriver à des couloirs humanitaires pour les situations de guerre. Mais ça n'est pas la solution à la véritable question. Parce que la véritable question n'est pas sur ceux qui s'échappent d'une situation de guerre et qui doivent être accueillis, évidemment. Et donc, c'est mieux qu'ils partent à travers des couloirs humanitaires qu'à travers la Méditerranée. La véritable question est cette hypothèse, qui est plus qu'une hypothèse, qu'il y ait des traversées dans des conditions dangereuses de la Méditerranée, parce qu'ici on n'a pas parlé des passeurs, il y a des organisations criminelles qui gèrent ça. Et ces organisations criminelles ne sont pas des organisations humanitaires. Hein? Et ça serait souhaitable que l'organisation humanitaire n'ait jamais de contact avec les organisations criminelles des passeurs. Cette organisation de marchands d'hommes doit être extirpée. Et sur ça, il n'y a pas de doute. Et sur ça, il y a besoin d'une coordination européenne aussi. Coordination européenne qui prévoit d'un côté des couloirs humanitaires pour des situations de guerre, et de l'autre côté, aujourd'hui la situation s'est améliorée, j'espère, en Syrie, et espérons qu'elle continue à s'améliorer, et je sais pas, je crois au moins, et une possibilité d'accueillir pour ceux qui arrivent des pays africains sans qu'il y ait les traversées de la Méditerranée dans ces conditions. Et je termine sur une note, parce qu'aujourd'hui, en Italie, il y a un débat précis, sur une question très précise. Le gouvernement de gauche de M. Gentiloni, actuel commissaire européen, futur commissaire européen, avait fait un accord à travers son ministre de l'Intérieur, Marco Minniti, d'ailleurs provenant du Parti communiste italien, avec la Libye, qui était un accord très dur, qui payait les Libyens, disons la vérité, pour empêcher le départ. Ça, on arrive là. Ça, c'est la substance. Cet accord aujourd'hui, c'est le dit mémorandum italo-libyen, doit être reconduit. Les Italiens ont demandé, sur la base des pressions des organisations humanitaires, de le renégocier. Voilà, on est là. Nous, et tous les gouvernements, hein, de toutes les couleurs, là c'était un gouvernement de gauche, l'accord a été reconduit par le gouvernement avec Salvini, et maintenant il y a un nouveau gouvernement de gauche. Qu'est-ce qu'on fait avec les Libyens? On continue la stratégie hypocrite de payer les Libyens pour qu'ils empêchent le départ et pour qu'ils reprennent ceux qui arrivent à partir dans la mesure de ce qu'ils arrivent à faire, et payer les Turcs pour qu'ils empêchent aux Syriens d'arriver en Europe. On continue sur cette stratégie? Moi, je ne sais pas. Mais de toute façon, il faut arriver à une situation où ceux qui part sur la base d'une aspiration de mobilité puisse le faire de façon normale et légale, et le système des passeurs d'hommes, des organisations criminelles et de l'insécurité soit mis à l'index.
Jean-Marie, quelques remarques sur la France accueillante?
Oui, enfin bon, je suis un peu... J'ai beau avoir l'âge que j'ai, il y a des moments que j'ai pas connus. Hein. je pense que il faut pas idéaliser que la France soit accueillante. Il faut pas idéaliser. C'est pas facile. C'est compliqué. Voilà. Mais je crois que dans le passé, on s'en est sorti, on va dire. Voilà. Si, quand même. Enfin, je veux dire, il y a eu des migrations en France dans lesquelles on s'en est sorti. Alors, c'est un peu sur cette base-là aussi que je dis que pour l'avenir, on peut espérer aussi que si on prend des moyens. Et je suis d'accord. Hein, il n'y a pas que les Syriens musulmans, etc. C'est vrai qu'il y a des problèmes de culture aussi avec les Congolais. Voilà. Mais ça. Il y a un phénomène là sur lequel il faut faire assez attention, c'est le phénomène des diasporas. Parce que il y a des analyses, notamment d'un type de la Banque mondiale, sur le rôle que les diasporas jouent, pas seulement dans les mouvements migratoires, mais aussi dans les capacités d'accueil et d'intégration. Les diasporas sont des lieux aussi d'accueil et d'intégration. C'est pas que, voilà. C'est très important. Voilà. Très important. Je suis d'accord. Dublin, c'est compliqué. C'est sûr qu'il faut qu'on s'en sorte de Dublin. Je crois pas que la clause de souveraineté soit très utilisée, mais elle l'est un peu quand même. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de pression sur le système Dublin. Il y a beaucoup de pression sur le système Dublin. Je crois que la difficulté du système Dublin, c'est qu'elle présuppose un système de répartition qu'on n'arrive pas à monter. Voilà. Alors là, il y a quelque chose de tout à fait précis, d'accord. On peut pas rêver de répartir les réfugiés qui arrivent en Italie ou en Grèce, en Hongrie, c'est pas possible. Donc c'est pas la piste, d'accord. Alors, du coup, il y aurait à mon avis... Bon, encore une fois, je dis qu'il y a de la pression, d'accord. Notamment les organisations à Bruxelles sont... Voilà. Et les discussions entre les organisations et les responsables à Bruxelles sont souvent quand même assez... Même les responsables à Bruxelles reconnaissent que le système Dublin, c'est pas ça. Mais je crois qu'il y a un autre point d'appui qui me paraît très intéressant, c'est... un travail de renforcement d'un système européen d'asile. Pas tellement pour uniformiser, mais de façon à ce que ça soit un soutien effectif pour les pays d'arrivée. Voilà. Mais il faut faire attention, le poids des arrivées ne repose pas seulement sur les pays d'arrivée. C'est pas... Il y a des gens qui arrivent en Grèce et en Italie, je suis d'accord. Mais enfin, après ça, ils vont ailleurs. D'accord? Alors, il faut quand même penser à l'Allemagne, par exemple, qui a quand même assumé un poids assez important. Alors, ce que je veux dire, c'est que si on travaille, et je crois qu'il y a un travail en ce moment là-dessus, sur un système d'asile européen qui soit aussi un soutien pour les pays d'arrivée aussi, mais pour aussi les pays de réinstallation, voilà, parce que ça, c'est une opération extrêmement utile et importante et qui se déploie, et la France a fait des progrès sur ce terrain-là. Voilà. Enfin, pour les couloirs humanitaires, je crois que c'est une très bonne chose. Monsieur Tardis, dont j'ai parlé tout à l'heure pour un autre sujet, a beaucoup travaillé à l'IFRI avec des organisations sur les couloirs humanitaires. On a eu plusieurs réunions, c'était vraiment très intéressant. Et je crois que là, il y a quelque chose. Mais si vous voulez, ce qui se passe là, c'est des phénomènes de réinstallation. D'accord? C'est-à-dire des gens qui peuvent venir d'un pays extérieur à l'Europe et venir légalement en Europe. Alors, soit par des opérations privées, enfin privées au sens où c'est Santé Gidio, le Cure catholique, l'entraide protestante, des gens comme ça, mais en même temps, c'est légal et c'est sûr. Et ça, c'est ce qui est quand même le plus important. Et je trouve que la réinstallation, c'est quand même une piste d'avenir.
Voilà, eh bien le moment est venu de clore ces débats à propos de la France, terre d'accueil. Je rappellerai quand même que le premier pogrom contre une population immigrée à l'époque contemporaine, c'était en 1892 dans les rues d'Aigues-Mortes, où les Italiens 93 pardon, dans les rues d'Aigues-Mortes, où les Italiens étaient pourchassés à coups de fusil, et ça a fait, si je ne me trompe pas cette fois, 24 morts.
Le chiffre exact n'est pas connu. Officiellement, c'était 9. Ensuite, on a dit 24. Certains disent 40. Ils ont disparu. Voilà. Et les coupables, parce qu'il y avait des soupçons, plus que soupçons, ont été tous acquittés au procès qui se déroulait à Angoulême à la fin de 93. Triste histoire. Heureusement, l'amitié franco-italienne est beaucoup plus forte que ces choses-là.
Merci beaucoup à vous deux. Je vous rappelle que vous avez des corbeilles à la sortie qui vous permettent d'aider à l'organisation de ces mardis d'éthique publique. Et puis, notre soirée de décembre, donc le premier mardi de décembre, pour l'instant devrait être sans doute consacrée à la question du Maghreb, puisque ce sera le moment des élections algériennes qui interviennent après les élections en Tunisie et de mouvements sociaux intéressants au Maroc. Voilà, donc c'est le sujet qui devrait être traité lors de ce mardi d'éthique publique de décembre. Merci à tous.